Bonjour Monseigneur.
Bonjour Laurence.
Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la dernière émission sur vos orientations diocésaines. Alors la dernière fois, nous avons parlé dans les autres émissions de la transformation missionnaire, des paroisses missionnaires, et nous n'avions pas évoqué les cinq essentiels qui sont aussi quelque chose de très important. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus de ces cinq essentiels dont tout le monde parle, mais peut-être c'est intéressant aussi pour les auditeurs de Radio Ecclesia de se refaire une petite piqûre de rappel en ce matin.
Oui, les cinq essentiels, si vous voulez, c'est un mot pour se rappeler ce qui fait les activités d'une paroisse. Donc, il y a l'accueil et la fraternité ouverte à ceux qui veulent participer à la vie de la paroisse, donc l'accueil. Il y a la prière, évidemment, individuelle et communautaire. Il y a la formation par une catéchèse qui nourrit la foi. Il y a le service, hein, parce qu'une communauté chrétienne, c'est aussi une communauté qui est au service, et en particulier des pauvres. Et puis, il y a la mission, hein, pour rejoindre ceux qui ne viennent pas ou plus dans nos communautés. Alors, le terme de cinq essentiels, c'est simplement un terme pour se souvenir de ces fondamentaux de la vie paroissiale. En nous mettant ces éléments qui font la vie d'une paroisse, ça a pour objectif d'aider un curé et puis son conseil à se dire, est-ce que par hasard, il n'y a pas une dimension qui manque complètement ? Par exemple, on peut ne jamais penser à la question de l'accueil. Bon, j'ai entendu dans des lettres de catéchumènes des gens qui disent « la première fois que j'étais à la messe, je ne connaissais pas les codes, je ne connaissais pas le vocabulaire, j'étais complètement perdu, ouais. Je me suis retrouvé au fond, je ne savais même pas quelle place je devais prendre, est-ce que je devais me lever, etc. » Bon, l'accueil, si on est vraiment une paroisse missionnaire, ça veut dire qu'on se dit « oui, laisser de la place aussi aux gens qui ne connaissent pas, ou bien aux nouveaux arrivés. » Donc, qu'est-ce qu'on fait pour qu'il y ait une fraternité aussi entre les membres de la paroisse et puis un accueil de ceux qui viennent de l'extérieur. Alors la prière, c'est la prière individuelle et communautaire. Et moi, je trouve que la question, c'est de dire une paroisse ne fait pas que organiser la vie sacramentelle, simplement organiser les messes. Puis voilà, la messe du dimanche, c'est le centre de la vie communautaire. Mais comment est-ce qu'on aide aussi les paroissiens à être fondés dans la prière? Comment est-ce que dans l'adoration du Saint-Sacrement, il y a des moments comme ça, en silence, devant le Seigneur, pour lui dire qu'il est vraiment le Seigneur de la communauté et que nous ne faisons pas que parler, mais nous nous mettons aussi à son écoute. Bon, comment est-ce qu'on s'interroge pour savoir si la prière communautaire, qu'est la messe liturgique, est vraiment nourrissante? Ou bien est-ce que c'est simplement une cérémonie qu'on organise? Il y a la formation aussi. Est-ce que la foi des chrétiens est nourrie? Catéchèse, c'est pour les enfants, mais aussi catéchèse pour adultes. Donc nous, on a le parcours FIDEO qui aide justement à ce que tout le monde se forme dans sa foi. Voilà, et donc parfois il y a des paroisses où cette dimension catéchétique, elle est totalement absente. Or, on ne peut pas simplement faire une catéchèse à partir des homélies du dimanche. Le service aussi, le service du monde, le service des pauvres. Est-ce qu'on fait droit à cela dans une paroisse ou bien est-ce qu'on se dit « il n'y a pas de besoin dans notre paroisse, on n'est pas assez nombreux ». Mais oui, mais s'il n'y a pas le service de la charité, il manque quelque chose à l'Église. Et pas simplement quelque chose d'optionnel, mais quelque chose qui fait l'Église. Voilà, est-ce qu'on aime les pauvres? Est-ce qu'on s'en occupe? Est-ce qu'on regarde les pauvretés? Et puis, il y a la mission, évidemment. Est-ce qu'on est en situation missionnaire? Voilà, donc les cinq essentiels, ils nous permettent simplement de nous dire en communauté, est-ce qu'il ne manque pas quelque chose à la vie de la communauté? Et comment est-ce qu'on prend au sérieux ces essentiels, puisque ça a été appelé comme ça, pour la vie de la communauté?
C'est en quelque sorte des repères, si on peut dire, avec deux dimensions. Une dimension intérieure, de nourriture personnelle, de prière, de formation, et puis une dimension peut-être plus d'action à l'extérieur, de service, de mission, d'accueil. C'est comment, en fait, notre prière et notre intériorité, notre vie avec le Seigneur se déploient, en fait.
Oui, se dilatent. Vous avez raison. Et du coup, ces cinq essentiels, ils peuvent aider au discernement. Quand on se dit, tiens, quelle est notre vision pour les cinq ans à venir pour la communauté ? Quelqu'un peut dire, mais attendez, il n'y a aucune place pour les pauvres dans notre communauté. Ou bien il n'y a jamais de formation. Alors c'est peut-être là un point important qu'on a à remettre dans notre dynamique paroissiale pour que notre communauté soit vraiment une communauté chrétienne.
Très bien. Alors, en 3 ans et demi de fonction, si je puis dire, en tant qu'évêque du diocèse de Nîmes, vous avez donc arpenté le Gard, notamment lors de visites pastorales, d'événements. Cette marche de ce chemin dans le Gard, vous avez donc identifié des appels spécifiques pour l'Église dans le Gard et pour ce diocèse de Nîmes. Et vous avez notamment identifié 5 appels. Alors, c'est cela que nous allons aborder aujourd'hui. Quels sont ces 5 appels dans l'Église pour le Gard?
Alors vous avez raison, c'est ce que je disais à propos de la vision. Quand on commence à décider d'une vision, d'une orientation, que ce soit pour un diocèse ou bien pour des paroisses, ben, il faut évidemment regarder d'abord le territoire et puis essayer de comprendre les attentes du territoire. Donc ces appels ou bien ces attentes, il m'a semblé qu'elles pouvaient nous aider, qu'elles pouvaient aussi aider les communautés au moment de définir leur vision, au moment de se demander ce qu'ils faisaient les années à venir. Alors, oui, j'ai trouvé 5 appels, il pourrait peut-être y en avoir d'autres. Et le premier appel, pour moi, ça a été les journées de la Méditerranée, qui ont été voulues, encouragées en tout cas par le pape François. Et elles ont pour objectif de tisser ou bien de consolider des liens entre les habitants du bassin méditerranéen, qui sont de cultures, de religions, de langues et même de continents différents, mais qui partagent quand même un même espace géographique, dont la Méditerranée est le centre. Et qui partagent certainement aussi un destin commun. Et nous, nous faisons partie de ce grand bassin méditerranéen avec notre ouverture justement sur la mer. Et puis, pas seulement notre ouverture sur la mer, mais nos paysages, notre caractère. On est méditerranéen et on pourrait dire d'une certaine manière que nous sommes voisins par la Méditerranée. Des Espagnols, des Grecs, des gens du Moyen-Orient, des gens d'Afrique du Nord. Vous voyez, la Méditerranée, on peut la voir comme une frontière, mais on peut la voir aussi comme une zone commune, faisant quelque chose de commun entre nous. Alors ça a été l'idée du pape qui a réuni... Alors d'abord, il y a eu des réunions en Italie, à Bari, ça a commencé à Bari, puis ensuite à Florence, ensuite à Marseille, comme chacun le sait, puisque le pape
2023.
Est venu. Ensuite à Tirana, en septembre dernier, en septembre 2024, où des évêques et puis des jeunes de tous ces continents se sont rassemblés. C'était très intéressant. Moi, j'ai été à Marseille et puis à Tirana. L'idée, c'est que, à travers des initiatives, eh bien, on essaie de tisser ce réseau entre pays du bassin méditerranéen. Par exemple, là, il y a cette année un bateau, le Bel Espoir, qui fait le tour du bassin méditerranéen avec des jeunes qui restent 15 jours sur le bateau. Et puis, il y a tout un itinéraire. Bon, ça va durer un an. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à proposer dans notre école catholique, justement, d'entrer dans cette vision, dans cette dynamique commune, et en particulier avec des liens avec les écoles catholiques au Maroc, parce qu'il y a des écoles catholiques au Maroc qui sont remplies surtout de musulmans. Hein. Mais l'idée, c'est comment est-ce que nous nous ouvrons à cette culture de l'Afrique du Nord, culture arabe, religion musulmane aussi, comment est-ce que nous nous ouvrons, comment est-ce que nous nous y intéressons. Elle n'est pas simplement quelque chose d'étrange que nous regardons un peu avec méfiance, mais comment est-ce que, à travers la connaissance de la culture et puis aussi peut-être des liens d'amitié, nous pouvons tisser des liens. Alors là, pour l'instant, on est parti sur le Maroc. Moi, j'encourage aussi, par exemple, tous ceux qui sont dans le réseau des écoles La Salle. La Salle, c'est les frères des écoles chrétiennes qui ont aussi un réseau d'écoles au Liban, en Égypte, en Palestine, dans cette région du Moyen-Orient. Eh bien, vraiment, de tisser ces liens, de les activer, pour que, en fait, nous nous connaissions.
Oui, c'est ça. C'est vraiment, c'est se connaître, c'est tisser des liens, c'est peut-être créer des projets, se soutenir aussi, s'entraider et avoir un peu une connexion, effectivement, comme vous le dites, par la mer Méditerranée, puisqu'il y a aussi des enjeux. On parle des défis migratoires aussi.
Oui.
Il y a des enjeux sur cette région de la Méditerranée.
Oui, oui. Apprendre la langue aussi. La langue arabe est très, très, très belle et porteuse d'une civilisation incroyable. Et l'arabe, il est pas parlé simplement par les musulmans. Il y a plein de chrétiens de langue arabe. Et donc, moi, j'aimerais bien qu'il y ait des Français du Gard et Gardois qui apprennent l'arabe, parce qu'on a besoin. Ensuite, la langue, c'est véhicule de relation. Ça nous permet d'entrer en relation et pas simplement de parler anglais. Et comme vous dites, alors, il y a les flux du sud vers le nord, des migrants. Mais nous sommes aussi témoins. Alors ça, c'est un peu une zone qui n'est pas tellement exploré pour l'instant, c'est qu'il y a les flux touristiques du nord vers le sud. C'est-à-dire qu'on voit chaque année arriver tout un tas de gens du nord qui viennent profiter de nos côtes.
Et du soleil.
Et de la sympathie des habitants. Et de la mer, évidemment. Et là, on n'en parle pas beaucoup, mais je trouve que c'est aussi une responsabilité pour nous qui accueillons tous ces touristes. Mmh. Quand on voit la problématique du surtourisme aussi en Méditerranée, c'est-à-dire des gens trop nombreux, mais qui ont envie de soleil, qui ont envie d'eau. Voilà, comment est-ce que nous, dans notre petite part, dans nos paroisses aussi, comment est-ce que nous en devenons aussi, disons, responsables de leur accueil?
Alors, vous avez parlé de la Méditerranée, vous avez aussi évoqué l'unité des chrétiens. Comment c'est important d'être unis en tant que chrétiens? Ça fait partie aussi des spécificités du Gard, de l'histoire aussi dans le Gard.
Oui, évidemment, puisque nous savons tous que les protestants, après la révocation de l'édit de Nantes, se sont réfugiés dans les Cévennes. Et donc, ils s'y sont installés. C'est une terre qui est importante pour eux. Il y a le musée du désert hein, qui en fait mémoire. Et donc, on a une forte présence des communautés protestantes, des communautés évangéliques aussi. Et je crois que ça, c'est un appel aussi pour nous. Je dois dire que depuis que je suis ici, nous avons d'excellentes relations les uns avec les autres. On se découvre. Moi, je découvre aussi ces communautés qui ont beaucoup à nous apporter et qui sont très ouvertes, justement, à parler, aussi à faire des choses ensemble. Et donc, je crois que la voie de l'unité, c'est aussi une voie pour porter l'Évangile, parce que nos divergences, notre désunion est une forme de scandale aussi pour le monde. Hein. Nous sommes tous chrétiens, tous baptisés, tous ces filles du Père, mais alors on n'est pas ensemble pour le culte, pour la messe, pour la prière. Et ça, c'est terrible. Voilà. Alors, comment est-ce que nous pouvons, sous la conduite de l'Esprit-Saint, œuvrer à notre unité et ne pas nous installer dans une sorte de tolérance-indifférence? Je dis ça parce que la tolérance peut très vite déboucher sur l'indifférence. C'est-à-dire, je te tolère parce que tu n'as qu'à croire ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Moi, si tu ne me déranges pas, ça ne me dérange pas non plus. Puis finalement, on finit par s'ignorer complètement. Je crois que la voie de l'unité nous emporte beaucoup plus loin que cette sorte de tolérance-indifférence. Elle nous pousse à nous rencontrer, à méditer ensemble la parole de Dieu, à nous lier d'amitié, à recevoir humblement ce que vivent les chrétiens des autres confessions, à agir ensemble pour le service du monde, et en particulier des pauvres, et puis à demander pour l'autre la bénédiction de Dieu. Et donc, elle nous pousse aussi à témoigner ensemble dans notre monde sécularisé du salut donné en Jésus-Christ. C'est ce que je dis dans mes orientations. Nous avons un devoir d'annoncer l'Évangile, le Christ qui brûle nos cœurs. Et donc, la bonne nouvelle de la résurrection du Seigneur, ça c'est un impératif.
Est-ce qu'on peut parler aussi d'une forme de, entre guillemets, réconciliation? Parce qu'il y a quand même eu beaucoup de souffrance. Hein. Alors, quand on va à Aigues-Mortes, qu'on va au musée, c'est vrai que l'histoire est chargée de drames hein, et de souffrances. Oui. Est-ce qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, justement, le monde a soif de Dieu, le monde a besoin de Dieu. Donc, unissons-nous pour annoncer cette bonne nouvelle du Christ et réconcilions-nous et dans nos différences, dans le respect de nos différences, travaillons ensemble à la même vigne.
Oui, je crois qu'on a besoin de réconciliation en profondeur. On s'entend bien, mais est-ce qu'il n'y a pas besoin aussi de guérir la mémoire du passé? Quand je suis arrivé à Nîmes, j'étais surpris que souvent on me raconte... En disant c'est fini aujourd'hui, mais on la raconte quand même.
Oui, c'est ça. On reste marqué quand même par une histoire.
Très marqué par ces dissensions, par tout ce qui a pu se passer, de violent aussi. Je crois vraiment qu'on a un chemin à faire aussi de réconciliation en profondeur. Ça pourrait être un très beau signe pour notre temps.
Tout à fait. Alors, un autre défi, si on peut dire, c'est la spécificité du Gard. C'est un département très rural. Comment l'Église, dans un monde rural, peut se développer? En même temps, on a des hypercentres comme Nîmes, on n'est pas loin de Montpellier, on n'est pas loin de Marseille. Donc, les spécificités du Gard dans ce territoire, dans ce département du Gard, quel est-il?
Vous avez raison, et c'est ce que je vois avec mes visites pastorales, c'est que le monde rural peut sembler en état d'abandon. Il peut y avoir chez les habitants, et en particulier les chrétiens, un sentiment de déclassement, un sentiment d'abandon, parce qu'on est éloigné des centres. Parfois, on est éloigné aussi, il n'y a plus de commerce, il n'y a plus de poste, il n'y a plus grand-chose dans les villages, de ce qui fait les activités communes. Alors même que souvent, les maires et puis leurs équipes sont vraiment très mobilisées pour que les villages vivent, pour trouver des solutions. Je rends hommage vraiment à la mobilisation des élus qui veulent vivre. Mais je dois dire que nous, en particulier en raison du manque de prêtres, nous avons des églises qui sont fermées, nous avons des églises où il y a peu de célébrations. Et donc, c'est une question que nous posent aussi les paroissiens. Comment est-ce que, dans les années à venir, on va faire vivre nos lieux de culte? Et puis surtout, les communautés sur place, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'ouvrir des églises, mais comment est-ce que les communautés sont vivantes?
Sachant qu'on le voit, vous avez rencontré beaucoup d'élus, de maires. Il y a des communes qui attirent parce qu'elles sont stratégiques au niveau travail, au niveau logement. Il y a des petites communes où on accueille beaucoup de familles, d'autres communes où c'est le contraire. Donc même pour vous, en tant qu'évêque, au niveau de la place du curé, des prêtres, avec des prêtres aussi qui sont âgés, c'est tout un défi aussi pour vous, en tant qu'évêque, de mailler ce territoire et d'assurer une vie spirituelle qui soit harmonieuse du territoire.
Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a des villages qui sont en croissance, en particulier tout ce qui est sur l'axe hein, autoroute et TGV, là où s'implantent des entreprises. Il y a aussi des lieux qui sont extrêmement touristiques, donc il y a une vie en particulier au moment des vacances. La question, c'est de dire comment est-ce que l'Église peut vivre. Or, on a quand même un modèle bien ancré en France, en Corse, c'est un village incuré. Et donc, on a du mal à passer de ce modèle un village incuré à un autre modèle où les chrétiens sont présents et c'est eux l'Église. Et l'Église, elle n'est pas là simplement parce qu'il y a un curé qui vient célébrer la messe le dimanche. Moi, j'ai entendu des récits très touchants. Par exemple, demander aux prêtres africains, ben, il n'y a pas un prêtre par village en Afrique. Mmh. Or, il y a des communautés extrêmement vivantes, souvent, animées par des catéchistes. En Chine aussi, j'ai entendu le récit d'une religieuse chinoise qui me disait « Mais moi, dans mon village, il n'y avait pas d'église. Il n'y avait pas de prêtre, évidemment, il n'y avait pas d'église. C'était à la maison qu'on se réunissait. Et donc, notre maison était le lieu de rassemblement des chrétiens. Et quand le prêtre venait tous les 3 mois, il célébrait la messe chez nous. »
C'était l'événement.
C'était l'événement, mais on ne vivait pas que tous les 3 mois quand le prêtre venait. C'est-à-dire, la communauté était active sur place, elle se réunissait. Alors, elle peut ouvrir l'église, elle peut prier dans l'église, mais elle peut se réunir. Pas simplement, d'ailleurs, pour de la prière, ça peut être pour de la réflexion, pour de la formation. Vous vous souvenez que Jésus dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux, c'est ça l'église. Et l'église, elle est vivante, elle est présente, elle est active, là où quelques baptisés se retrouvent pour se ressourcer dans le Seigneur, pour partager l'écriture, pour visiter les malades, pour enseigner la foi aux enfants. Parfois, je rêve comme ça que dans les villages, il y a même 3-4 enfants qui soient réunis parce qu'ils habitent le village pour être catéchisés. Et ça, c'est vraiment notre responsabilité à tous.
Nous avons aussi un département qui fait partie des départements les plus pauvres de France métropolitaine. Alors, ça dépend des chiffres. Hein. Des fois, on dit 6e département ou 7e département, selon les statistiques. Cette spécificité d'avoir quand même 19% des habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté, en quoi ça donne des indications aussi pour ces orientations diocésaines ?
Oui, la thématique de la pauvreté, on ne peut pas simplement se dire dans une paroisse, en fait, l'État s'en occupe, ou la commune s'en occupe, ou le CCAS s'en occupe, et nous, nous fermons les yeux parce que nous n'avons plus de force. On ne peut jamais se dire dans une communauté, nous sommes tellement âgés, nous avons tellement peu de moyens, que de toute façon, nous n'allons plus regarder vers toutes les formes de pauvreté. Parce que ça, c'est la charité qui se refroidit. Qu'est-ce que fait l'Église si elle ne regarde pas ? Alors quand je parle des pauvretés, il y a la pauvreté matérielle qui est chiffrable. Vous avez raison, mais moi je pense par exemple à l'augmentation de la consommation des drogues, la violence dans les quartiers de nos villes, les violences faites aux femmes, dans le cadre familial en particulier, la désintégration du couple et de la famille, la solitude, l'abandon des personnes âgées chez elles ou dans les EHPAD, la précarité des migrants. Il y a des formes de pauvreté qui sont à nos portes et il me semble qu'il faut qu'une communauté chrétienne regarde et puis se mobilise. Alors toujours en lien aussi avec le CCAS, il ne s'agit pas simplement de faire nos petites affaires, si je puis dire, il faut travailler ensemble. Dans mes orientations aussi, je rends hommage à beaucoup de choses qui se font, en particulier avec le Secours catholique, mais pas seulement. Il y a quand même beaucoup de communautés qui sont mobilisées, mais j'ai voulu les mettre parce que c'est vraiment aussi un appel pour nous.
Vous parlez aussi donc tout ce qui est pauvreté, c'est aussi la consommation de drogue, ça peut être de la violence.
Oui.
Et effectivement, il y a beaucoup d'acteurs qui se mobilisent et c'est aussi un appel de l'Église.
Oui.
Le dernier appel, le dernier axe, vous en avez un petit peu parlé aussi, c'est le tourisme, avec la Méditerranée, avec la mer, avec le soleil. Et ce département du Gard qui attire. Alors, comment l'Église va répondre à cet appel ? Il y a peut-être déjà des initiatives. Enfin, pour vous, c'est aussi une dimension qui est importante, le tourisme.
Oui, j'ai l'impression qu'on a une responsabilité dans les zones de tourisme de personnes qui viennent, souvent qui sont en recherche intérieure, qui ont soif de quelque chose. Parfois, ils ne savent pas mettre des mots dessus, mais qui ont aussi une plus grande disponibilité du cœur et du temps, du calendrier. Je me rappelle, dans les Hautes-Pyrénées, des gens qui disaient « Nous, on ne pratique que pendant les vacances ». Voilà, parce que notre vie, elle est
trop chargée
en ville. Ouais. Mais pendant les vacances, alors on va à la messe. Et puis il y avait des gens qui disaient, de toute façon, nous, on vient pendant la Semaine Sainte, parce que c'est là notre lieu de ressourcement. Il me semble que nous avons une responsabilité. Et c'est pas simplement des gens qui arrivent en plus, et puis on se réjouit parce qu'il y a quelques personnes en plus à la messe. Mais qu'est-ce qu'on leur propose ? Qu'est-ce qu'on leur offre ? Comment on se mobilise ? Par exemple, avec des conférences, par exemple, avec des visites d'église, par exemple, avec des petits pèlerinages locaux. Bon, il y a beaucoup de gens qui disent, moi, quand je vais dans le Gard en vacances, j'ai une attente pour qu'on parle de cela, qu'on me propose des lieux à visiter, parce que ça va me ressourcer, parce que j'ai le temps, parce qu'on va le faire en famille, parce que, au fond, j'ai un désir d'aller plus loin.
Alors, ça veut dire aussi organiser la paroisse pour que le prêtre puisse aussi partir, lui, en vacances. Donc, c'est aussi toute une organisation, certainement, au niveau des paroisses, parce que la période d'été peut être aussi une période où les gens et les paroissiens partent en vacances. Et un autre temps fort, c'est le colloque sur la piété populaire qui a eu lieu à Ajaccio en décembre 2024, où vous avez notamment animé une série de conférences sur la piété populaire. Comment pourrait-elle s'organiser? Est-ce qu'elle s'organise déjà dans le Gard, cette piété populaire?
Oui, parce qu'il y a beaucoup de petits pèlerinages locaux dans notre tradition catholique. On aime bien les processions, on aime bien les veillées, on aime bien les fêtes votives. Et tout ça, c'est de la piété populaire. Ce que j'appelle piété populaire, c'est un lieu où tout le monde peut arriver comme ça, presque sans inscription, sans préparation. Mmh. Et puis on est embarqué, si je puis dire, par le peuple présent qui célèbre. On ne demande pas grand-chose, si ce n'est d'être là et puis de participer. Et je trouve que c'est très intégrateur, ces moments de piété populaire. Je me souviens que pendant les visites pastorales, j'ai été bénir une grotte de Lourdes. Puis le curé disait, il y aura peut-être 30 personnes. Puis en fait, il y en avait, trois fois plus. Oui. On était une bonne centaine, tout simplement parce que on ne sait pas qui va venir. Mais les gens sont touchés parce que c'est concret. Parce que, vous voyez, ça les rejoint aussi dans leur mémoire chrétienne, dans leur mémoire familiale. Cette grotte de Lourdes, on l'a toujours connue. Oui. Elle est un point de repère pour nous. Voilà. Et donc, tout ce qui est concret, tout ce qui est tangible, tout ce qui permet même aussi de mettre le corps en marche, à travers une marche, une procession, une bougie qu'on allume, de l'eau bénite qu'on prend, tout ça, ça fait aussi grandir la foi. Et je crois que c'est important de le proposer et puis de se souvenir de cette manière aussi d'annoncer le Christ, toute simple.
Très bien, écoutez, merci Monseigneur pour cette série de trois émissions qui se terminent aujourd'hui. Toutes ces orientations diocésaines et pastorales, les auditeurs de Radio Ecclesia pourront les retrouver sur le site de Radio Ecclesia en version, téléchargeable, on peut consulter. Également, il y aura les podcasts sur le site internet et puis un livret qui va être édité que vous pourrez retrouver en paroisse pour pouvoir aussi approfondir tous ces points et les approfondir aussi en paroisse.
Oui, c'est ça. On le trouvera aussi dans sa version électronique, ce livret. Du coup, on peut se faire passer par Internet. Oui.
Tout à fait. Merci, Monseigneur.
Merci, Laurence. Merci aux auditeurs.